Alexandre Ducœur au micro.
Pas mal ça, ça nous réveille un petit peu. Mmh.
Stud Apart, on va représente.
Poser, on va poser un petit couplet.
Je suis content de retrouver mon bro, Renaud. Mmh. Ça rime.
Yo frère.
Et aujourd'hui, on va parler de la vente de Stud Apart, assez récente cette année, hein, il y a 8 mois, ouais. Alors, 9 mois peut-être, le temps de diffuser l'épisode. Une vente à un groupe hollandais, Housing Anywhere, pour un montant, je commence par là, 25 à 35 millions, je sais de le placer en rythme, mais pas évident. Et donc, tu avais envie d'ouvrir avec 50 Cent.
Ouais, c'était la musique que je mettais quand je recevais une bonne nouvelle par mail. Du coup, je me suis dit que ça...
La bonne nouvelle ou chaque bonne nouvelle?
Chaque bonne nouvelle, parce que chaque micro négociation était une victoire à noter sur la feuille. Donc, je me souviens, en plus, j'étais beaucoup en télétravail, donc je mettais beaucoup de musique. Désolé pour mes voisins du dessous, du coup.
C'est bien, c'est une forme de célébration. Il y a eu trop d'invités qui disaient qu'ils célébraient pas assez, donc...
Ah oui, non, c'est vrai que celle-là, alors pour le coup, nous, on n'a pas beaucoup célébré pendant les 9 ans d'aventure, mais sur cette session, on a pas mal célébré. Ouais.
Alors, pour la petite histoire, avant de rentrer dans toute l'aventure de la session de Stud Apart, tu nous disais, là, juste avant de lancer l'enregistrement, qu'on a lancé, nous, Cash Out, au moment où tu étais en pleine négo.
Ouais, exactement. Donc, je crois que c'était au courant novembre ou début novembre. Je me souviens plus exactement la date. Et quand j'ai vu apparaître ça sur mon LinkedIn, je me suis dit, OK, je vais m'abonner direct pour recevoir le premier épisode. Et ça m'a permis, effectivement, à la fois de me projeter et de relativiser aussi sur un certain nombre d'étapes par lesquelles on était en train de passer dans notre tête. Donc, c'était très intéressant.
Parce qu'on va rentrer dans les détails, mais tu me disais que tu avais écouté Ludovic Hureau, donc qui était le premier épisode de Cash Out, le matin, qui racontait très bien qu'il avait pleuré d'émotion le jour du signing, et puis que la veille au soir, il s'était raccroché au nez du futur repreneur, parce que ça s'est fait quand même, tu t'es dit, en fait, ça va.
Ouais, exactement, ça nous permet de relativiser, de prendre un peu de recul, donc je trouve ça très bien. Et de revenir ici, ça veut dire que ça s'est fait aussi, donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
Ouais, parce qu'on va voir qu'il y avait un deal qui ne s'est pas fait.
Exactement.
Donc on va raconter tout ça. C'est toujours difficile de couper 50 Cent, mais à un moment on a un rythme. Je propose donc de lancer officiellement le cash out d'Alexandre Ducœur. Le signing, le réveil.
Le réveil, donc comme d'habitude, effectivement, on demande la journée, comment elle se passe, dans quelle émotion étais-tu. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ta journée à partir du réveil?
Alors, nous, ça s'est passé en deux étapes. Donc, on a fait le signing. Donc, j'étais dans mon appart à Bordeaux un soir. Donc, on ne peut plus normal, et à force de refaire les documentations, etc., on devait signer à 19h, puis au final, je pense qu'on a signé le DocuSign à 22h. Et après, je suis rentré dans une chasse aux signatures auprès de mes différents business angels, mais ça s'est plutôt bien passé. Une fois que le CEO en face, je pense qu'il a regardé les signatures arriver, il s'est dit « je vais pas signer le premier ». Avait signé, c'est bon. On avait... Et en fait, c'est un petit sentiment bizarre parce que je m'étais tout imaginé sauf ça, à savoir dire « ok, bon, en fait, le vrai truc, ça va être au closing ». Et donc, le signing s'est passé sur une journée plutôt classique avec une signature d'un DocuSign à la maison. Et donc, 50 Cent et une bière en disant « OK ».
Oui, parce que justement, pour ça aussi, je sais pas si c'est volontaire, mais tu nous as remis...
Exactement, parce que c'était à chaque étape un petit peu de négociation gagnée qu'on mettait, que je mettais cette musique. Donc je me suis dit que
donc
le signing...
signature qui arrivait, 50 Cent.
Exactement.
Ok.
Exactement.
Donc tu te réveilles dans quel mood?
Moi, je vais plutôt parler du closing parce que c'était vraiment pour nous là où tout allait vraiment se faire, à savoir le transfert des titres, le rendez-vous chez l'avocat, la rencontre avec le nouvel actionnaire majoritaire. Aussi, c'était un deal sur lequel on n'avait pas communiqué du tout auprès de nos salariés. Donc, il y avait cette forme aussi de préparation derrière de l'annonce. Et donc, on s'était préparé, anticipé, on avait fait une petite vidéo, etc. Donc, je pense que c'était plutôt cette journée-là. Et donc le réveil est classique parce que l'avantage c'est qu'on avait signé toute la documentation, donc il y avait plus de points de négociation, on arrive au closing plutôt détendu.
Oui, là il y a plus de doute.
Voilà, il n'y a pas de doute sur ce qui va se passer.
La durée entre le signing et le closing ?
Ça a pris 2 semaines.
Après. 2 semaines.
2 semaines. On avait quelques conditions pré-closing en fait à faire, notamment sur nos prêts bancaires, etc. On avait quelque chose à lever pour pouvoir faire l'opération. Donc, ça a été plutôt de l'administratif pendant 2 semaines.
Rien qui aurait pu être bloquant.
Non, après, tant qu'on n'a pas les documents, conditions suspensives du closing, voilà, mais il n'y avait rien d'aléa à part de la réception de documents de BPI, de la BNP, etc.
Mais les fonds arrivent au closing, donc voilà, tant qu'on n'a pas les fonds,
exactement,
c'est pas fait.
Exactement, donc du coup, on savait que c'était cette journée-là où les transferts aussi se feraient, donc... je me réveille dans un hôtel. Je sais qu'on a rendez-vous à midi avec le nouvel actionnaire majoritaire.
Dans un hôtel, parce que vous vous retrouvez où ?
À Paris. Okay. On se retrouve à Paris.
Et ça, t'es à Bordeaux, toi.
Voilà, ouais. J'ai déménagé il y a un peu plus d'un an à Bordeaux. Et donc, je me réveille plutôt tranquille, mais j'avais planifié rien le matin. Donc, petit bain. J'essaie de me détendre au maximum en me disant, OK, profite de cette journée.
J'arrive avec les doigts fripés au closing.
Et donc, derrière, ce qui s'est passé, c'est que il y a quand même une grosse friction, mais pas avec le nouvel actionnaire majoritaire, mais en gros dans le métro pour me rendre du coup au déjeuner qu'on avait réservé, donc à côté du cabinet d'avocat. Je reçois un message de notre cabinet d'avocat à nous qui nous dit que il faut faire signer en urgence tous les titulaires de BSPCE. Donc là, on a quand même 13 salariés.
Ne sont pas au courant.
Qui sont pas au courant du ouais. deal. À qui on doit faire signer une documentation dans l'urgence, et c'est un besoin pour le closing. Et donc là, le déjeuner s'est pas du tout passé comme prévu. J'ai expliqué ça à l'actionnaire majoritaire en disant, je dois prendre mon ordi, faire un mail personnalisé à chaque salarié pour lui dire, désolé. T'as à la fois pas beaucoup de temps pour signer, mais voilà en gros le contexte.
Donc tu le fais par mail, du coup, tu les appelles pas?
Je le fais par mail parce que je pense que c'est même plus que 13. Je pense qu'on était pas loin de la vingtaine quand même de salariés concernés.
Mais puis tu peux faire un bout en copier-coller quand même malgré la personnalisation du message.
Exactement. Ouais. Et surtout, on essaie de faire en sorte aussi que ce soit pas c'était quelque chose de positif pour tout le monde. Tout le monde récupérait quand même une somme d'argent assez conséquente.
Est-ce que tu as une clause d'accélération pour eux, en fait, qui...
En fait, eux rentraient dans le deal, donc tous ceux qui pouvaient, en gros, exercer, donc ils étaient dans leur... Il n'y avait pas d'accélération du vesting parce qu'on n'avait pas vendu 100% des actions. Néanmoins, ils étaient tous alignés sur notre processus de liquidité à nous, donc ce qui permettait du coup aux salariés à chaque tranche de pouvoir vendre leurs actions suivant le même multiple que nous.
Donc une vraie convergence d'intérêt aussi là-dessus.
Exactement. Donc pour nous, c'était déjà un élément extrêmement important de l'opération, que tout le monde puisse et bien bénéficier de ça et que ça ait une vraie valeur, parce que on met en place les BSPCE comme dans toutes les startups, mais en réalité, il y a quand même beaucoup de salariés qui savent pas vraiment ce que ça veut dire.
Et à quel moment ça va valoir quelque chose.
Exactement. Et donc là, pour nous, c'était hyper... pour nous, c'était extrêmement important durant l'aventure, déjà, qu'on puisse le mettre à tous les salariés qui étaient en CDI au moins de plus d'un an, de pouvoir mettre en place ça. Donc c'est aussi quelque chose qu'on a négocié dans le deal avec l'acquéreur, de conserver les BSPCE d'en réémettre au moment de l'acquisition pour garder cette flamme et cet alignement d'intérêt.
Il y en a qui n'ont pas tout de suite compris ou qui ont demandé à regarder un peu de leur côté avant de signer.
Ouais, il y en a deux ou trois, et c'est vrai qu'il y a eu quelques frustrations de certaines personnes, ce que je peux totalement comprendre en disant moi. En fait, on met un petit peu le couteau sur la gorge pour signer parce que vous avez rendez-vous dans une heure et demie. Vous avez besoin absolument de ma signature. Donc, je comprends pas tout ce qu'il y a dans la doc. Et donc, je dois forcément vous faire confiance. Mais bon, j'étais assez à l'aise pour mettre la pression parce que la doc qui signait, c'était la doc que moi-même, j'étais en train de signer. Et donc, et donc finalement, ça s'est quand même très bien passé. Sauf que ils ont découvert du coup le nom de l'acquéreur, et donc on perdait aussi ce côté contrôle à la fois de la communication
que vous aviez prévu dans.
Qu'on avait prévu, on avait voilà l'histoire, qu'est-ce que ça veut dire. Donc on avait tout un scénario en tête qui évidemment du coup s'effondrait à la réception de ce message.
Parce qu'ils ont dû en parler aux non-BSPCistes du coup aussi. C'est allé vite l'info.
Ouais, bah. Je sais pas tout ce qui s'est passé en interne, mais j'ose imaginer que tout le monde reçoit un DocuSign dans sa boîte mail à signer avec un message sur Slack en mode c'est urgent. Donc évidemment, je pense que tout le monde a commencé à s'échanger un peu des messages, ce que je trouve normal aussi.
Mais pour ceux qui ont bien lu, pour ceux qui ont bien compris.
Exactement.
D'autres moments clés ce jour-là?
Le moment clé, il y en a eu plusieurs. Bah, déjà, la signature, c'est assez impressionnant d'arriver dans une salle. Donc, c'était Jantet qui était en face. Donc, c'était une énorme salle de réunion. Et donc, il y a tout ce qu'on écoute aussi sur le bas de cash-out. Il y a le champagne qui arrive, mais on ne le sert pas tant que, en fait, on n'a pas reçu les fonds. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, la banque du coup donc l'acquéreur, il avait son petit truc pour nous faire les virements, et la banque ne répondait pas au téléphone. Donc en fait, on est resté pas loin d'une heure où tout était signé. Nos avocats et les autres en gros disaient non, on sert pas le champagne tant qu'il y a pas les fonds qui arrivent, parce que bon, c'est un peu l'objectif.
Mais là c'est détendu, c'est tendu, c'est silence, on entend les mouches voler.
En fait, on reçoit le premier virement d'une somme, enfin, en gros, de l'acquisition des BSPCE par l'acquéreur, donc qui était ce que lui, il avait le droit de faire, mais les virements conséquents, en gros, n'arrivent pas. Donc, ça commence à être un petit peu tendu parce qu'il n'y a pas de réponse de la banque, il n'y a pas de deadline qui est donnée. Donc, on se dit, en fait, ça se trouve, on va tous rentrer chez nous et on revient demain, quoi. Donc, au début, on se dit, il a quand même préparé le truc, à mon avis, ça va bien se passer, etc. Mais au bout de 45 minutes, pas loin d'une heure, ça commence à se tendre quand même, en mode, on fait des blagues, on va vraiment boire le champagne chaud. Même lui, on voit qu'il était dans une situation inconfortable, etc. Donc non, il y avait un peu de pression quand même dans la salle.
Ok. Et donc, du coup, les fonds arrivent quand?
Et donc, les fonds, en fait, donc, ils nous envoient la preuve de virement. On a dû... Et on n'avait pas les fonds sur notre compte, mais on était rassurés sur le fait que ça allait arriver le lendemain ou le surlendemain maximum.
Là, ça change une vie pour un jeune homme?
Oui.
Pour un entrepreneur en général, mais... T'es jeune? T'es encore jeune? Alors, je sais que tu fais plus jeune que ton âge. On en rigolait à tout à l'heure, mais...
Oui, bien sûr, j'ai 28 ans, donc c'est encore jeune. Ce qui change, c'est surtout qu'on gagne un petit peu de confiance en soi. C'est quelque chose qu'on a forcément mûri avec l'histoire qu'on a eue en 2020 aussi.
Et sur laquelle on va revenir.
C'est quelque chose sur lequel on s'y prépare un petit peu. C'est tellement long comme process que on mesure aussi la chance d'être arrivé jusqu'à cette signature finale qui, au final, dont beaucoup d'entrepreneurs parlent, mais n'arrivent pas forcément. Et donc, forcément, on mesure la chance à ce moment-là qu'on a exceptionnelle d'être dans cette situation.
Parce que tu as monté ta boîte à 18 ans. Est-ce que ça a été un frein, ton âge, sur certaines situations de boîte, de staff, RH ou autre?
Ouais, c'est souvent une question qu'on pose. Je pense que ça a été un avantage parce qu'on adressait un marché déjà sur lequel notre audience était étudiante. Donc, on était étudiant, on créait une solution pour les étudiants. Donc, c'est sûr que si j'avais lancé quelque chose plus tôt dans les maisons de retraite, ça aurait peut-être été différent. Moi, je l'ai pas subi comme tel. Niveau RH, il suffit de voir nos photos sur Welcome to Jungle pour comprendre que ton manager est vraiment très jeune. Donc les gens qui postulent, je pense qu'ils étaient conscients qu'ils n'avaient pas, enfin voilà, ils savaient dans quoi ils s'embarquaient quand ils venaient en entretien chez nous. Donc j'ai pas senti, voilà, peut-être qu'on s'est effectivement fermé de beaucoup de portes au début en disant bah non, j'aurais jamais bossé pour un mec à 20 ans. Enfin voilà. Mais moi je l'ai pas senti comme ça, j'ai pas senti de frein parce que les gens qu'on a rencontrés étaient plutôt cool sur le fait qu'on était jeunes.
D'accord.
Je vous propose du coup un flashback sur revenir sur les débuts de l'aventure et justement pour ouvrir le bal de cette partie, on a une question de Thomas, l'autre Thomas, Thomas Morvan. Tu es banquier corporate chez Neuflize et tu avais une question pour notre invité.
Oui, bonjour Thomas, bonjour Alexandre. Ma question, c'était de savoir un peu ce qui t'avait décidé à te lancer dans cette aventure avec ton associé. Voilà.
D'accord, bah écoutez, bonjour. Ce qui nous a motivé à nous lancer dans l'aventure, d'abord, c'est une rencontre. Donc j'ai rencontré Maurice Roland en première année d'école de commerce, donc on sortait tous les deux du bac, et donc ça a été une rencontre assez fusionnelle d'un point de vue business, puisqu'on aimait un petit peu les mêmes choses. Lui avait vendu pas mal de choses quand il était au lycée, même au collège, il avait une petite
page Facebook. L'esprit entrepreneur.
Voilà, ouais. Exactement. Et donc, quand on est arrivé en école de commerce, je pense qu'on avait tous les deux envie de pas uniquement vivre cette aventure mais sans continuer à faire nos petites affaires. Il était aussi organisateur de soirées. Et donc, on a beaucoup parlé par rapport aux différents projets qu'on pourrait lancer ensemble. Et on avait vécu tous les deux une difficulté pour trouver notre appartement à Paris. Et donc, on a creusé un petit peu autour de cette problématique-là, ce qui nous a permis de lancer l'aventure Studapart dans laquelle on pourra revenir après, je pense.
Eh ben justement, on va pas revenir après, on va en parler tout de suite. Pour parler des débuts de l'aventure, tu as choisi une musique que je vous propose d'écouter, Scred Connection, Partie de rien.
Parti de rien, on arrive à ce qu'on vise. Et vu qu'on apprend rien, qui nous aide, c'est souvent rien ce qu'on vise. Ils disent souvent qu'on est des ponts à rien. Et il suffit d'un rien pour qu'on y croit, quoi que t'en dises. On va pas
perdre. Je présume que le titre est très lié à.
C'est pour tous ceux qui ont pour nous du mépris.
Quoi que t'en dises.
Qu'on lève notre guerre avant qu'on se casse d'ici.
Hey, hey. Quoi que t'en dises.
Ça fait un bout de temps qu'on est parti.
Ça fait un bout de temps.
Pas depuis tout le temps.
Le temps c'est cool, temps.
On aura du mal à faire ça coolement.
Je te parle gentiment.
J'attends patiemment.
Mais j'ai pas toute la vie.
J'attendrai pas que les pigeons me chient dessus.
Et même si je suis dessous,
j'attendrai pas après le plan de l'issue. Pour dire qu'ici on est souvent déçus. Par la réussite qui pour l'instant nous a mal reçus. Parti de rien, on arrive à ce qu'on vise. On fait notre taf dans ce bise. Poseur de bombes sur ce que on sert des leçons acquises. Crache sur le FN et sa convoitise. Paralyse les faux, c'est pas ces cons que nos sons attisent.
Parti de rien, on arrive à ce qu'on vise. Et vu qu'on apprend rien, qui nous aide, c'est souvent rien ce qu'on vise. Ils disent souvent qu'on est des bons à rien. Et il suffit d'un rien pour qu'on y croit, quoi que t'en dises.
On persiste et on lâche pas prise.
Quoi que t'en dises.
Les 4 saisons, même en période de crise.
Quoi que t'en dises.
Pour l'an 2000, on compte doubler la mise.
Quoi que t'en dises.
On aime poser sans raconter de bêtises.
Hey. Quoi que t'en dises.
Le rap, on s'y attache. Souvent, on s'y fâche.
Pas les Parti de rien.
Ouais, alors effectivement, c'est un choix qu'on a fait avec mon compagnon, du coup, Amaury Roland, d'aventure, sur qu'est-ce qui représente pour nous, enfin, quelle musique on va choisir pour représenter au mieux l'aventure. Je pense que c'est pas tout à fait vrai parce que on a quand même une famille qui nous a aidés, donc on n'est pas vraiment parti de rien. Mais dans le milieu dans lequel on se lançait, donc il faut recontextualiser, on est en 2013. Il n'y a pas non plus autant de jeunes entrepreneurs qu'il y a aujourd'hui.
19 ans.
voilà, on est hyper jeune.
Pas de diplôme, du coup.
On n'a pas de diplôme. Et donc, on n'est pas le profil type de l'entrepreneur qui sort de grande école et qu'on voit aussi dans les fonds d'investissement. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une énorme sélection et qu'il y a encore un peu aujourd'hui il faut cocher quand même pas mal de cases pour arriver jusqu'à lever des fonds, monter une boîte, recruter, etc. Et donc, on a toujours eu le sentiment avec Amaury de devoir quand même prouver deux fois plus pour être crédible, à la fois parce que on fait très jeune, surtout moi, on n'a pas de réseau du tout à Paris, donc quand on envoie nos premiers mails, notamment à Isaïe, on se fait refuser.
Isaïe qui par la suite va être
exactement
un des fonds qui investit et qui rentre jusqu'à la sortie. Ouais.
Exactement. Et donc du coup, on a vraiment ce sentiment-là que il va falloir rien lâcher parce qu'on n'a pas la même chance que certaines personnes qu'on côtoie dans l'entrepreneuriat, qui sortent de grandes écoles.
Après,
qu'on a des gros
c'est
réseaux,
un choix
etc.
Parce que je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais c'est un choix que vous avez fait de pas aller au bout de vos études et en fait de pas attendre. Vous aviez le projet.
Exactement.
Et tant pis pour la case à coucher, on y va quoi.
Exactement, c'est pour ça qu'on dit quoi qu'on en dise, on a ce qu'on vise, c'est que nous ce qu'on visait aussi c'était notre indépendance. Je pense qu'on a tous les deux un profil assez rebelle, donc on voulait pas rentrer dans les cases et dans le moule, et je pense que c'est aussi ça qui nous a donné notre force. Et on a tous les deux un contexte familial en plus qui est assez similaire où Amaury a une sœur hyper très bonne élève qui a coché beaucoup de cases, mon frère pareil, et donc on était toujours un petit peu en comparaison. Et je pense
puis là faut expliquer aux parents, désolé, on va pas finir les années d'études quoi.
Exactement. Ouais. Donc on continue de les embêter jusque là effectivement en disant on veut vraiment rien faire comme
parce
mon
que
frère.
Du coup oui, tu l'as monté donc à 18 ans la boîte. Et tu sortais de l'adolescence, t'as eu des moments où tu te sentais en décalage avec avec tes potes de ton âge
Avant de monter, non. Par contre, très vite, en fait, et je pense que on avait vraiment insouciance avec Amaury quand on a démarré. On pensait absolument pas du décalage et du fossé qu'on allait créer. Parce que le contexte d'école de commerce, c'est BDE, BDS,
soirée.
Voilà, j'ai 2 ans pour me faire des potes et 3 ans pour travailler, pour trouver un emploi. Et nous pour nous
on
faire
a bossé
des
d'abord.
Potes, voilà, exactement. Donc nous, on a inversé le truc. On s'est dit, OK, on va bosser à mort tout de suite. Et donc, forcément, on a commencé à avoir des problématiques de gens qui étaient pas du tout alignés avec notre âge. Des problématiques, on va en parler beaucoup, mais petit à petit, en fait, oui, on crée un fossé. Bah, avant ça, pas du tout. On était totalement normaux dans la moyenne de l'école.
Ouais, et puis, le fossé, au-delà des problématiques que tu vis au quotidien, il se fait que t'es moins là.
Ouais, t'es moins là, moins présent, et puis les gens, ils comprennent pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup cette phase de avant de lancer, c'est hyper excitant, mais une fois que t'as lancé, personne ne comprend le sacrifice. Donc, limite, t'es un peu snob de pas aller aux soirées, de pas faire comme les autres, parce que t'as un projet à côté, mais personne ne comprend vraiment ce que ça veut dire comme sacrifice. Et donc, c'est à ce moment-là que le fossé se crée, je pense.
Très rapidement, les résultats sont pas au rendez-vous. D'abord, si on reprend quand même, c'est intéressant toujours. Enfin, nous, on aime bien dire, OK, j'ai réussi, je suis un ex 40 ou j'ai revendu ma boîte, mais avant ça,
c'est pas linéaire, effectivement.
Exactement, oui. Oui, puisque en fait, les 2 premières années, en plus, il y a un petit peu cette schizophrénie. C'est-à-dire, quand t'as lancé ta boîte, dès le lendemain, on te dit alors ça marche. la réalité, c'est que ça va pas être aussi beau que ce
ça
que j'avais mis dans l'Excel.
Exactement.
En plus, nous, notre audience, c'était les étudiants. Donc, tu t'imagines dans l'école, tu peux pas dire à ton audience qu'en gros, le truc que t'as lancé, c'est une bouse et que ça marche vraiment pas, quoi. Donc, il y a un peu ce truc de schizophrénie où entre nous, avec Amaury, on sait que ça marche pas. Mais il faut montrer que ça marche. Et en plus, les gens ont l'impression qu'on est des mini-stars parce qu'on passe beaucoup dans les médias, parce qu'on adresse une problématique de logement étudiant, parce qu'on est hyper jeune. Et donc, du coup, on a tous les marronniers, notamment
le
premier
été. Là, tu coches d'autres cases.
Voilà. Et en fait, du coup, tu coches la case du côté « je suis passé sur TF1, mais mes grands-parents sont hyper contents et tout le monde à l'école pense
ça
à
y est,
une
t'as
star. »
Ça y est, t'as réussi.
Voilà.
T'es passé sur TF1.
Et nous, on n'a pas fait une résa de plus quoi, sur la plateforme. Donc du coup, on sait très bien qu'à la fin de l'année, on a fait 1 000 € de chiffre d'affaires et qu'on est très, très loin de ce qu'on avait mis notre premier
business. C'était dur, ça, de montrer que ça allait bien, de faire des médias, etc., le côté communication
Ça a énormément ancré quelque chose en nous avec Amaury qui après s'est retourné à l'inverse, c'est-à-dire qu'en personal branding, on a vraiment été très très dans notre tunnel, on montrait rien après. C'est que je pense que cette phase de
surexposition versus les résultats.
De versus les résultats, c'était extrêmement dur à assumer sur du long terme. Et donc après, on a fait totalement l'inverse, c'est-à-dire on n'expose rien, on parle de rien, on communique très peu, ce qui n'était pas forcément non plus la meilleure des choses à faire. Et on a peut-être perdu des opportunités, mais ce qui est sûr, c'est que c'était extrêmement dur. C'était, je pense, la phase la plus dure de notre aventure.
Donc à un moment, on va se poser la question, même peut-être d'arrêter, ou alors nouveau départ.
Exactement. Donc en
dans l'aventure.
Exactement. On doit partir à l'étranger ou trouver une solution parce qu'on n'avait plus d'argent pour continuer. Et donc là, on a réussi sur une minute de pitch à convaincre 101 projets de...
Ça, c'était Niel,
Marc-Simoncini et Jacques-Antoine Grandjean. C'est ça. Exactement. Donc c'était dans le théâtre de Jacques-Antoine Grandjean.
C'est pas mal d'arriver à les convaincre.
Oui, c'est pas mal. Ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs, on avait pitché un projet qu'on faisait même plus. Mais il était sexy à raconter, en fait. C'est-à-dire qu'on racontait quelque chose d'hyper factuel. Les étudiants, ils quittent leur appart tous les ans et il n'y a pas de solution pour les connecter à ceux qui en recherchent en face. Et donc, en fait, quand on le raconte en une minute, on se dit, bah oui.
Offre-demande, très factuelle.
Il y a un intérêt pour l'offre, il y a un intérêt pour la demande, donc il y a match, donc il faut y aller. En réalité, on comprend en creusant un peu plus le truc que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc,
c'est
nous, on était déjà arrivé à la conclusion que ça serait pas ça la next step de StudAppart, mais était tellement plus simple à raconter qu'on a pitché ça et on a réussi à avoir leur confiance. Et donc,
là, c'est quoi? C'est 25 000 euros de. Ouais.
Exactement, il nous redonne notre mise quasiment qu'on avait mis du départ. Et donc,
mais
c'est
là,
un petit peu un nouveau départ.
Tu tiens pas longtemps. T'as quelques semaines de survie, quelques mois peut-être.
Alors, quand t'es étudiant, tu peux manger des pâtes. Hein,
oui, exactement. Nous, on
avait chez papa, maman.
Nous, on avait un train de vie de l'équivalent de 400 euros. Donc, autant te dire qu'avec 25 000 euros, on pouvait y aller.
Tu tiens 4-5 ans.
Exactement. Donc, non,
cash burn.
D'ailleurs, on n'est toujours pas touché.
Exactement. Et donc, après, oui, on a été extrêmement frugaux. Et notre modèle économique faisait après qu'on a réussi à avoir des fonds et de
bah en fait vous êtes passé du B2C au B2B2C.
Exactement.
Et ça a tout changé.
Exactement.
On rappelle, parce que je crois même pas qu'on l'ait fait vraiment, le pitch de StudAppart.
Du coup, StudAppart, c'est une marketplace où on réserve son appartement pour 1 à 24 mois. On s'adresse majoritairement aux étudiants, mais on a aussi pas mal de jeunes actifs qui réservent des logements chez nous, qui vont chercher de la flexibilité, de l'accessibilité et aussi le côté humain et facile qu'on a pour réserver un appartement en ligne. Et donc, on est passé d'un modèle B2C à un modèle B2B2C. C'est surtout pour l'aspect de la demande, puisqu'on allait chercher les locataires en direct sur notre version 1. Et notre version 2 de StudAppart, du coup, fin 2014, c'est d'adresser les étudiants à travers les écoles et universités. Et donc, en déployant une sorte de marque blanche qui est devenue une marque grise aujourd'hui. Et on est revenu à un modèle B2C aujourd'hui avec un canal d'acquisition via les écoles très fort. Et donc voilà, on a refait cette boucle B2C, B2B2C, B2C.
Et ce pivot, il arrive quand dans l'histoire de la boîte?
Il arrive pas loin de 2 ans après.
Ok.
Bon, on va évidemment faire une grosse ellipse. Là, on va rentrer dans toute cette phase de négociation. Avant celle qui est avortée, dont on va parler tout de suite, il y a eu d'autres approches?
Il y a eu régulièrement effectivement des approches de groupes français majoritairement.
Est-ce que tu te rappelles du premier call d'approche où vous n'êtes pas dans une optique de vente, hein, j'imagine.
Ouais.
Mais du coup, ça t'y met, ce premier call-là?
Ouais, je m'en rappelle très très bien parce que on avait un des actionnaires qui nous avait introduit parce que il était un petit peu dans ce milieu-là. Donc il y avait un projet dans un groupe français ils avaient identifié 2 entreprises.
Pas celui qui a avorté,
non.
Ok.
Non, non. Un autre avant, ils avaient un projet un petit peu de développer le moyen long séjour. Et donc nous, on ressortait un petit peu dans les marketplaces dessus. Et donc ils avaient identifié 2 cibles qu'ils auraient aimé fusionner pour créer un acteur Mais l'alignement sur les valos des deux entités qui voulaient se fusionner n'était pas très clair. Et donc finalement, ça a avorté assez vite une fois qu'on avait pitché.
Je voulais envoyer quand même la musique que t'as choisie pour toute cette phase de négo, de deal. C'est Devil Eyes, Hippie Sabotage. Sabotage.
Ouais.
Je sais pas comment on le dit. Je connais pas. Bah, je vais découvrir.
C'est plus sexy.
Ouais. Gros clip. Hein.
Et pas les moyens.
Ça n'empêche pas de faire du bon son.
Ouais.
Et alors pourquoi cette musique ?
Cette musique, parce que je trouve qu'elle a ce côté un petit peu excitant, c'est-à-dire ouverture d'une opportunité, mais à la fois calme, prise de recul en disant ok, en fait. Il y a une part d'excitation, mais il y a aussi une part de terre à terre où tant que...
On s'enflamme pas non plus, quoi.
Exactement, on s'enflamme pas non plus. C'est pas comme Fisticène quand on reçoit une très bonne nouvelle. C'est ça.
Vous étiez aligné avec ton associé là-dessus, sur le projet de session, etc.
Ouais. Alors,
à tous les moments de toutes les négos?
Toutes les négo, parce qu'il y a un point quand même qui est important, c'est qu'on démarre les négociations, donc... On n'est pas allé à l'international avec mon associé, donc pendant notre cursus scolaire, donc ça nous a mis un gros bémol, c'est l'anglais. Donc quand on a un groupe international qui s'adresse à nous, déjà c'est en anglais. Moi je me mets très très vite en fait à essayer de progresser très fortement en anglais parce que on fixe le premier call, faut pitcher sur la barre en anglais, bon ok, ça va quand même pas être évident. Et donc en fait ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais extrêmement en front avec l'acquéreur pendant toute l'opération, et j'avais un soutien énorme en fait de mon associé. Je pense que
là,
c'est
tu parles de l'acquéreur final.
Oui, de l'acquéreur final. Et en fait j'avais un soutien de lui. On avait une confiance très forte à la fois dans l'activité StudaPart, en disant si ça se fait pas, parce qu'on avait déjà vécu le fait que ça ne se fasse pas, c'est pas grave, et si ça se fait, c'est génial, et voilà les conditions sur lesquelles il faut que ça se fasse.
Alors je suis désolé, mais je refais tout dans l'ordre, même si on a pas mal déconstruit l'ordre de l'histoire de la session. Là, ce qui est intéressant, c'est que en 2020, du coup, fin 2019 jusqu'à 2020, vous êtes en pleine négo avec un gros groupe français qui vous fait une offre.
Oui, effectivement. Donc, on rentre mi-2019 et à la fin de l'été 2019. Donc, nous, c'est notre première année, en gros, EBITDA positif. On a une croissance assez forte entre 2018 et 2019. On est sur un sujet de plus en plus actuel, à savoir le résidentiel. Il y avait une énergie assez forte sur l'investissement locatif, sur pas mal de choses. Donc, on commence à rentrer dans la lumière de groupes français qui cherchent à créer une solution digitale et à voir que l'immobilier traditionnel a peut-être besoin d'un peu plus de digital. Et donc, on s'accorde un peu sur la vision avec un groupe français qui a un projet de digitalisation d'une grosse partie de la chaîne de valeur. Ils ont beaucoup d'assets. Et donc, on va jusqu'à la fin des audits. Donc, ils ont audité StudaPart, etc. Donc, on était dans les calls de préparation à la rédaction du SPA quand on a eu le lockdown, du coup, en mars 2020.
Le confinement.
Et le confinement. Et donc, à ce moment-là, les premiers jours, ce qui est marrant, c'est que tout le monde fait un peu l'autruche. On continue les calls qu'on avait prévus.
Tu sens qu'il y a un changement
En fait, ce qui était hyper marrant, c'est qu'on s'est dit, c'est impossible que le sujet n'arrive pas sur la table. À la fois parce que StudaPart, il y a plus de 50% de ses revenus qui viennent d'étudiants internationaux.
Donc,
La Chine, ils ont tout fermé, c'est n'importe quoi. Donc, c'est bizarre qu'ils nous parlent pas du sujet quand même. Et ce qui se passe, c'est que 10 jours après, je pense que...
C'est long, 10 jours, hein, quand tu as tout ça en fond, là.
Exactement, en fait, 10 jours.
Sachant que t'es sur un signing quelques jours après.
C'était début avril, normalement, qu'on devait signer. Donc, c'était quand même 3 semaines après. Je me souviens, c'était le 4 avril qu'on avait comme deadline, en gros, pour la remise de la version 1 du SPA, etc. Donc, on avait quand même un timing où on s'est dit, bah, mais 10 mars, on a des calls, etc. Bon, ok.
Et puis, en parallèle, tu vois bah, que tout ferme et tu
oui,
vois ton
et
business.
Et surtout, leur action en bourse où, en fait, jour après jour, je me dis, ok, la verticale de fusion-acquisition, je pense qu'on va leur dire à un moment donné de fermer les robinets et d'attendre parce que là, on est en train d'avoir un précipice. Et puis après, il y a tout ce qui est annonce gouvernementale, etc., où aussi on commence à comprendre. On voit les images de Paris, tout est arrêté. On voit les images mondiales. Donc là, on se dit, OK, c'est évident qu'au moins, et notre banque d'affaires nous dit, au moins, il y aura une pause. Nous, sur tous nos dossiers, on est en train de faire des pauses. Ça ne veut pas dire que le deal ne se fera pas, mais on va faire une pause. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, quand on commence à sortir, donc on fait une pause, on arrête de trop communiquer pendant cette période-là, mais on continue un petit peu, mais on a aussi beaucoup de choses, nous, à gérer en interne.
Ouais, j'imagine. Et du coup, on se dit quoi quand on s'appelle ?
Bah, on se dit quoi ? On se dit, bah, comment va l'activité ? Alors, nous, on est au mois de mars, donc l'activité, déjà, en mois de mars, il y en a très peu. Donc, tu vois, là, il n'y a pas un énorme changement, mais c'est vrai que il peut... Donc, on commence à faire des scénarios de bah, qu'est-ce que les écoles, parce que c'est notre gros apporteur d'affaires, commence à prévoir sur la rentrée, est-ce qu'elle sera distancielle, présentielle, etc. Parce qu'il y avait aussi des questions vis-à-vis de ça, est-ce qu'on va rouvrir les campus et donc ça nous donnait un bon indicateur. Et à ce moment-là, il n'y a rien qui indique que la rentrée 2020 ne va pas se passer comme une rentrée normale. Donc nous, c'est tout ce qu'on vend.
Puis là, t'es évidemment quand même content qu'en France, déjà, on dise, on garde tant que faire se peut les écoles ouvertes. Quoi.
Exactement. Ouais. Les écoles faisaient partie des secteurs prioritaires sur lesquels on prévoyait pas de les laisser fermer. Et imaginer une rentrée qui se fasse pas en présentiel, c'était inimaginable. Et il faut savoir aussi qu'une grosse source des revenus des écoles françaises, c'est quand même les flux internationaux. Donc, ça, c'est partout dans le monde. Donc, en fait, de ne pas accueillir d'étudiants internationaux dans son école a un impact très fort sur les revenus. Donc, il y a aussi ce sujet de les écoles, elles sont alignées avec nous. Elles ont intérêt à ce qu'il y ait un maximum d'étudiants internationaux qui viennent, qui payent des MS, qui payent des frais de scolarité dans les écoles. Nous, c'est un peu ce qu'on vend. Et eux, ils nous disent que voilà, c'est un peu le bazar, que tout est en pause, que eux, ils ont quand même des milliers de salariés du coup chez eux. Ils ont aussi pas mal d'agences en physique. Donc voilà, donc on sent quand même que c'est le bazar et qu'il faut leur laisser le temps de rouvrir. Et après, on restait un petit dossier par rapport à eux. Et donc, on n'était clairement pas le sujet majeur entre nous et eux. Au niveau du dossier prioritaire, je pense sur le dossier du DG ou du président, on n'arrivait pas dans le premier, quoi. Je pense pas à ce moment-là. Ça, c'était évident. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on laisse passer cette vague. Quand on commence à avoir, OK, déconfinement, ça va se faire progressivement en mai. Donc, on réouvre un peu les discussions mi-avril. Et effectivement, il y a un événement d'un décès dans ce groupe-là qui bouscule tout, qui met un coup d'arrêt au deal. Bah, on sait que ça ne se fera pas.
Votre contact principal, enfin celui qui allait
ouais,
être...
Celui qui, en tous les cas,
qui était moteur.
Insufflait la vision pour les 5 à 10 prochaines années sur l'aspect serviciel. Et donc, on comprend qu'à ce moment-là, à la fois, c'est dramatique et que du coup, bah, le deal, il est consommé. Qu'il faut exécuter notre saison d'été, sauver un maximum de meubles parce que on a quand même 60% de nos revenus entre juin et septembre qui jouent. Et donc, en fait, on passe très vite à autre chose. Voilà.
Vous aviez évoqué avec les collaborateurs à ce moment-là la possibilité de vendre?
Ouais, ça commence à se savoir chez Studapart parce que dans les audits, il y a des salariés qui ont été impliqués dans ces audits-là. J'ai aussi des clients, donc des grands comptes à nous, qui avaient entendu ça dans Paris. Donc nous, vu qu'on est apporteur d'affaires, y a aussi un risque industriel en disant, OK, bah, si cette boîte, elle rejoint ce groupe, elle va récupérer les datas que j'ai sur Studapart, de mes disponibilités, etc. Donc il y avait pas mal de sujets politiques. Donc un risque industriel. Donc nous, évidemment, on n'a jamais communiqué extérieurement sur ce sujet.
Donc pas non plus interne. Donc les salariés, des bruits de couloir, mais vous réagissez pas à ça, vous ?
Non, on réagit pas aux bruits de couloir parce que ça voulait dire ça aurait créé, enfin, je sais pas si c'était une bonne solution ou pas une bonne solution, mais en tous les cas, on a décidé de pas réagir à ces bruits de couloir là.
Ni de com externe non plus.
Voilà, pas de com externe.
Par contre, dans la tête, ça se fait plus.
Voilà. Par contre, dans la tête, ça se fait plus. Et étonnamment, pendant l'été, on y pense vraiment très peu. Le sujet intervient plutôt post-été où on a sauvé les meubles de la saison, on fait quand même une bonne année 2020. Et du coup, on a aussi ce mode de fonctionnement avec mon associé qui a toujours été d'aligner notre volonté personnelle par rapport à l'aventure Studapart. Et donc, on avait créé une histoire où, du coup, on avait une liberté qui commençait à s'ouvrir, qui là, du coup, s'était refermée. Une liberté, quand je dis liberté, c'est
de responsabilité,
c'est-à-dire la possibilité de pouvoir passer à une aventure différente, d'avoir un rôle et une posture différente dans l'entreprise, du coup, qui s'est refermée. Donc, il y a eu quand même un moment avec Amaury où on s'est reposé la question de dans quel état on se trouve, est-ce qu'on est fatigué, est-ce qu'on a envie de revenir, est-ce qu'on a envie de repartir dans un cycle, dans quel cycle, quelle durée, comment. Et donc là, ça a été extrêmement bénéfique parce que du coup, ça nous a permis de nous dire ok, en fait, il faut pas qu'on fixe une date de fin parce qu'en fait, on ne maîtrise pas. Comment on organise l'entreprise pour faire en sorte qu'on ne souffre plus du tout des éléments qu'on a listés comme étant des éléments pour nous qui nous fatiguent au quotidien et qui nous poussaient un petit peu du coup à vouloir vendre cette boîte.
Et en parallèle, globalement, dans la continuité, vous avez quand même un fonds d'investissement qui vous a suivi depuis le début. Donc, a priori, la logique est de sortir quand même.
Oui, ouais. Exactement. Donc,
Parle d'Isaïe, juste pour...
Donc nous, Isaïe était était peu impliqué parce qu'ils n'avaient pas mis beaucoup d'argent chez nous, mais on avait quand même pas mal de souscripteurs d'Isaïe qui avaient investi... chez nous, sur aussi une logique de, en fait, on va investir en seed, on a investi en tout 1,5 million, on va les suivre série A, série B, série C, etc. C'est l'objectif. Studapart, ça se développe bien. Et nous, on avait, vu qu'on était EBITDA positive avec Amaury, on a refusé toutes les opportunités de levée de fonds parce qu'on s'est dit, on a la majorité du capital aujourd'hui.
Moment de la vente, il vous restait 60%.
Ouais. Donc, on a la majorité du capital. On sait que si on voit aussi beaucoup de nos copains européens qui lèvent des fonds, et je pense qu'on a à ce moment-là une confiance un peu limitée en nous en se disant, si on vend une story qu'on n'arrive pas à délivrer, derrière, c'est notre poste qui est aussi mis en danger. Donc, je pense qu'il y a ce côté où on se dit,
on tient.
Voilà, ouais. On reste maître dans le bateau. On est chez nous aujourd'hui. Isaïe nous embête pas, ils ont pas mis beaucoup de sous, on délivre bien, mais on veut pas entrer dans une histoire où on commence aussi à parler de gros sous.
Oui, d'internationalisation, exactement. Etc. Donc, si t'es pas capable de le tenir, le bébé...
Exactement. Pour nous, la logique naturelle, c'était l'internationalisation. On s'en sentait pas en tant que fondateur extrêmement capable. C'est pas pareil de gérer une boîte de 50 que de gérer une boîte de 200. Il y avait aussi ce côté où... ça trottait dans notre tête le fait d'avoir des intérêts alignés avec les gens qui étaient autour de la table. Et je trouvais, et on trouvait tous les deux avec Amaury, que patrimonialement, étant donné que nous, on n'avait rien, on voulait pas prendre non plus tous les risques. On arrivait dans une boîte qui avait une certaine valeur et on s'est dit, moi, d'être obligé de vendre minimum 40 ou 50 millions pour récupérer ma mise, c'est pas forcément ce que j'ai envie parce que...
Bien m'acheter un appart tout de suite, par exemple.
C'est ça. Et je veux être libre. Et surtout, et là, pour le coup, c'était Jean-David qui nous avait donné ce conseil-là.
Jean-David Chamboré.
Ouais, exactement. Maîtriser votre piste d'atterrissage et plus elle est longue, et mieux c'est. Et donc, pour nous, la piste d'atterrissage la plus longue possible, c'était EBITDA positive, croissance. On nous a dit il faut minimum 40% maîtriser ça et du coup vous pourrez décider de ce que vous voulez faire, soit vendre, soit lever des fonds, etc. Mais vous serez dans la position de maîtrise du sujet. Donc on était dans ce contexte, mais il fallait aussi montrer au fond qu'on n'était pas là pour faire une boîte non plus où on allait rester 10 ans ou 15 ans EBITDA positif et que du coup on allait les loquer un petit peu dans notre aventure entrepreneuriale.
Juste des dividendes, enfin je dis juste, mais oui, c'est pas leur objectif.
Voilà, c'est pas les objectifs, dividendes ou pas, on aurait même pu décider vu qu'on avait la majorité de jamais en verser et donc de pas leur offrir aussi de liquidité de sortie, c'était pas très fair play par rapport au deal de départ qu'eux avaient signé avec nous en 2015 quand ils sont rentrés. Et donc on savait naturellement avec Amaury que la prochaine opération de liquidité, ça serait de la vendre. Mais on savait aussi que si ça se faisait pas dans le calendrier qu'on se disait, bah c'était pas un drame et qu'on le ferait dans les conditions. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est mis d'accord, qui nous vont à tous les deux. Et aussi quelque chose qui est sain pour les salariés. Parce que l'aventure avec du coup ce groupe français nous a montré que très vite en fait la stratégie elle peut changer et vu qu'on était un micro caillou à l'intérieur de l'énorme mastodonte le projet digital qu'ils avaient s'y shiftait en l'espace de 6 mois, c'était aussi tous nos salariés qui perdaient leur job, leur mission, etc. Et donc on voulait aussi qu'il y ait un match avec la personne qui nous récupérait et représenter un pourcentage suffisant pour se dire c'est pas parce qu'on a vendu que la boîte elle existe plus au bout de 6 mois parce qu'il y a un DG qui part quoi.
D'ADN commun, de culture d'entreprise commune, de vision commune, etc. Donc
exactement.
Là vous posez deux options sur la table du coup pour les invests de départ, soit à un moment on fait un LBO, soit on cède.
Exactement. Et donc on a un petit peu un calendrier qu'on leur fixe sur une frise en disant voilà, notre BP c'est ça, à ce moment-là on rachète notre concurrent, donc fin 2020 on rachète un concurrent en dette, donc on lève de la dette pour acheter notre concurrent français qui est EBITDA aussi.
Quelle
positif, location-étudiant.fr, donc qui a EBITDA positif, qui est une super boîte qui existe depuis 15 ans avec un solo fondateur unique. Et donc du coup
vous rachetez combien?
On rachète 2 millions d'euros. Donc, ça nous permet aussi de nous confronter un petit peu au...
De l'autre côté, en fait.
Voilà, au LBO.
Vous avez fait de la M&A juste avant de...
Voilà, un petit deal qui s'est très bien passé. On va chercher de l'argent auprès de la banque. On a un BP qui fonctionne bien. BP, il nous suit. Notre banque de retail nous suit aussi.
Et du coup, c'était une grosse boîte? Il y avait beaucoup de salariés ou...
Pas du tout. Justement, c'était un deal assez simple parce qu'en fait, c'était un gars avec un CTO et une assistante.
À trois, ils ont réussi à faire...
Une boîte qui faisait pas loin de 600 000 euros de CA. Okay. Donc,
pas trop de problématiques d'intégration, de staff, etc. dans lesquelles tu peux rentrer.
Non. Il y en avait d'autres qui étaient des problématiques du coup effectivement de partage du savoir, aussi de comment on arrive à travailler ensemble, parce que l'avantage de travailler à 40 ou 50, c'est que t'as quand même des process, t'as un historique, mais quand ça fait 15 ans que tu bosses avec les mêmes personnes, t'as moins de forme, donc il y a aussi il y a quand même l'historique à reconstituer et aussi la capacité d'intégrer une personne qui a été vraiment avec des process à lui à 100% et jamais pensé à structurer pour une équipe. La problématique d'intégration humaine s'est faite à ce niveau-là. Mais on avait les mêmes clients, on avait le même marché, etc. Donc là-dessus, ça a été assez smooth.
Ok.
Et juste les mêmes clients sur des offres différentes ou la même typologie de clients qui vous a permis en fait de pousser StudAppart sur deux nouveaux clients?
Ouais, en fait l'objectif de cette intégration de location étudiant a été de proposer à nos clients, donc résidences étudiantes notamment, grand groupe français de l'immobilier, une offre duo et donc plus de visibilité avec et on a poussé notre outil de conversion parce que lui il avait un outil de génération de prospects mais il allait pas jusqu'à la conversion des prospects là où nous on avait toute la chaîne de valeur. Et donc on a réussi à combiner son trafic à lui qui était quasiment aussi important que le nôtre mais avec bien monétisé et transformé que ce que nous on arrivait à faire. Et donc voilà.
Donc, on va avancer vers cette session au groupe hollandais.
Exactement.
Qui contacte qui? Ça se fait comment?
Alors, ça se fait par l'intermédiaire d'un Français que j'avais rencontré à Milan sur un dîner de notre industrie. En fait, on a mangé à la même table. Et du
ça coup, vaut le coup de faire quelques événements pro.
Ouais, j'en ai pas fait beaucoup. Celui-là, du coup, ça montre que c'est important d'y être. Et il nous met en relation, du coup. Enfin, en fait, on discute. C'était courant 2021, juste avant l'été, au mois de mai. Et on discute un petit peu de comment nos deux boîtes ont survécu un peu au Covid. Est-ce que ça nous a un peu bousculé, comment on abordait un peu la saison qui allait se passer de juin à septembre. Et donc, quand je lui parle, je comprends rapidement en fait qu'il y a quand même un sujet pour eux de développer la France, qui sont quasiment pas présents. Et voilà, je sens un appétit particulier à ce moment-là.
Certains se seraient dit « je ne dis rien ». Parce que je veux pas leur donner d'infos, et au contraire, c'est...
Ouais, alors nous, c'est vrai
donc,
qu'on était...
C'était le CEO, du coup, de la boîte...
Non, pas du tout. C'était directeur du sales.
OK.
Mais qui était là dans la boîte depuis très longtemps. Il était arrivé en 2014 dans la boîte qui nous a racheté. Donc, il était en relation directe avec le CEO. Et puis moi, vu que j'étais pas non plus une star en anglais, c'était très bien de discuter avec un français au début. Et donc il met rapidement en relation avec Jordi, donc le CEO de House Anywhere, et donc rapidement Jordi en fait il met les pieds dans le plat en demandant quelques KPI un peu plus, qu'ils ont une stratégie assez agressive sur la partie d'acquisition. Ils venaient d'acquérir une boîte aux Pays-Bas, et vu qu'ils ont des gros actionnaires derrière qui ont une ambition à 10 ou 15 ans dans notre industrie internationale, il me dit qu'ils
ils ont des moyens. Ça reste une boîte à taille humaine, ils sont 250. Ouais.
Exactement.
Versus le groupe français où effectivement tu voyais après coup des problématiques possibles pour.
Exactement. Ce qui match hyper bien, c'est que déjà on se comprend. C'est-à-dire que moi j'ai passé quand même beaucoup de temps, et mon associé aussi, avec le groupe français, à essayer d'expliquer ce qu'on faisait, et en fait c'était illimité, c'est-à-dire que en fait quand t'as des milliers de salariés, y a toujours quelqu'un à qui il faut refaire la réunion, qui va reposer les mêmes questions, etc. Donc on comprend aussi qu'à un moment donné il y a une petite choc de culture où tu te dis à un moment donné je vais rentrer dans un truc, ça risque d'être chaud, alors que là on se connaît très bien, ils nous connaissent très bien, on sait exactement ce qu'on fait. Donc, quand on parle, ça va rapidement à l'essentiel. Et donc, ça, c'est extrêmement confortable. Et le deuxième point, c'est qu'on est tombé sur des gens qui étaient dans une aventure de temps long, qui étaient quand même alignés avec notre vision de notre marché, à savoir, on est dans de l'immobilier résidentiel. On s'inscrit dans du temps long parce que les rotations dans les appartements qu'on loue sont aussi dans du temps long. Je réserve pour 6 mois, 1 an. Donc le besoin en fait arrive tous les ans, mais arrive pas tous les jours comme sur de la food delivery ou des problématiques de croissance très agressive. Nous on est plutôt dans de la croissance de temps long. Donc on s'aligne très fortement déjà là-dessus, sur ce principe de croissance rentable, temps long, etc. Donc c'était des curseurs importants pour nous.
Ça, c'est tous les bons points.
Ouais.
Ça veut pas dire que la négo, enfin, qu'il n'y a pas de négo, quoi.
Ah oui, clairement, et donc très vite.
Et c'est aussi pour ça, que sert ce podcast, c'est pour partager.
Ouais. Ouais, clairement. Du coup, une fois qu'on a partagé les chiffres, on lui dit rapidement que on peut discuter, mais qu'on perdra pas de temps dans les discussions, que si tu l'appartes à une certaine valeur aujourd'hui, que lui il a une taille qui est quand même modérée, et que il va falloir faire quand même un gros chèque si on veut que ça se passe, et qu'à un moment donné ça va être une question d'argent aussi, et qu'il fallait qu'il valide vis-à-vis de ses actionnaires qu'il était en capacité de le faire.
Économique de l'opération, quoi.
Et donc ce qui se passe, c'est qu'il nous envoie une
première... Parce que c'est hollandais, mais les actionnaires sont italiens.
Ouais, italiens et monégasque.
Okay.
Un autre fonds. Enfin, il y a trois fonds, mais les plus gros. C'est ça. Et donc ce qui se passe, c'est que en juillet, il nous envoie une première offre qui est inférieur largement à ce que nous on attend, et donc très vite en fait on lui dit non en fait c'est pas grave, les maths ne fonctionnent pas, et ils se braquent
50% inférieur
à la fin, 50% en dessous de
parce que vous aviez donné un montant.
En fait, on n'avait pas, à ce moment-là, on n'avait pas donné de montant. Mais du coup, on lui donne le montant au moment de la première offre en lui disant, écoute.
Refus, nous, on attend plutôt ça, quoi.
Exactement.
Je sais pas, c'est à ce moment-là ou à quel moment dans le timing, mais tu nous échangeais tout à l'heure un petit tips,
ouais.
Qui est, moi, je trouvais assez smart, c'est qu'au départ, vous avez donné des chiffres un peu en deçà des, par rapport à vos prévisions. Pour finalement, tout au long de la négo, avoir que du mieux à présenter.
Exactement.
Ouais.
En fait, on a fait un petit peu le schéma inverse où beaucoup de gens disent bah, quand tu lèves des fonds, il faut quand même mettre un BP assez agressif, etc. Nous, on est dans un truc où on sait, et on l'avait vu avec le groupe français, qu'on est quand même dans du temps long, donc ça va durer 6 mois et que les indicateurs de confiance, il va quand même faire un chèque. Il fait un chèque sur l'avenir, donc les premiers signes de confiance, c'est déjà, est-ce que tu me dis pour maintenant, est-ce que ça se réalise ou pas? Et donc, c'est quand même mieux d'envoyer une copie tous les mois en disant que tu as fait mieux que ce que tu avais prévu ou à minima ce que tu avais prévu, que de t'être enflammé sur le premier BP que tu envoies pour faire...
pour le côté waouh,
brillant,
mais en fait,
etc. Ouais. Mais qu'en réalité, tu es en dessous et que du coup, il va falloir raconter pourquoi tu es en dessous.
Ouais. Et puis, ça te met une pression de performance aussi.
Exactement. Après, on l'avait.
Dans tous les cas, tu l'as.
Vous êtes exonéré un petit peu de ça. Quoi.
Ouais, exactement.
C'est une pression en moins. Ouais,
on a une pression en moins. Et surtout, on n'est pas dans un marché où on peut appuyer sur 3 boutons et faire exploser les chiffres. On sait qu'on est sur un marché de temps long. Donc, il vaut mieux quand même être prudent que de balancer des chiffres qu'on ne sera pas en capacité de tenir.
Donc, première négo au prix, ça ne le fait pas.
Ouais.
On se parle quand même.
On continue de se parler pendant l'été.
Donc, il ne se braque pas.
Non. Il se braque pas, il me fait quand même rencontrer son actionnaire majoritaire italien qui commence à me dire voilà qui veut un win-win voilà, je dis
donc là c'est en anglais du coup.
Ouais, là okay. c'est tout en anglais mais l'avantage c'est qu'ils étaient pas natifs
oui, donc
anglais,
il y a pas un langage.
Voilà,
c'est pas un texan quoi.
Exactement. Et donc ce qui se passe donc l'échange se passe bien, c'est quelqu'un aussi qui est dans l'immobilier mais en Italie.
Donc, il a l'équivalent de se loger en
ouais,
Italie, ouais.
Exactement. Et donc voilà, le courant passe bien, mais ce que je lui dis, c'est que parce que pour lui, il me vendait une histoire en fait au début qui était une histoire groupe. Je lui dis, et nous, tout l'enjeu de la négo a été de dire en fait, on vend d'abord sur une appart. L'histoire groupe, elle viendra après, et que en fait.
Tu veux dire vous dans le groupe quand tu parles de
non,
l'histoire
en termes
groupe,
de gains. C'est-à-dire qu'en gain, nous,
des actions.
Ils arrivaient à okay. faire notre prix parce qu'ils allaient nous incentiver par rapport à l'histoire groupe, par rapport au fait qu'on allait devenir une licorne, etc. Et donc, je pense que l'actionnaire majoritaire de la boîte qui nous a racheté s'est dit, mais c'est pas possible, ils ont pas compris ce qu'on voulait faire. Donc, je vais faire un call avec lui et je vais
lui expliquer.
Exactement. Et donc, même si moi, j'adhère à la vision du groupe, je reste quand même quelqu'un de pragmatique. Si je vends ma boîte aujourd'hui et que je suis le patron chez moi, demain, si je suis plus le patron chez moi, je vends d'abord mon histoire et après, on construira une histoire ensemble,
ouais,
mais ça fera pas partie du prix. Parce que en fait l'hypothèse de liquidité elle est très faible et donc là pour le coup ma piste d'atterrissage elle est vraiment très 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 très, très petite et donc là c'est totalement en dehors de notre logique à nous et donc je préfère gagner moins mais être sûr de ce que je vais gagner que de signer une histoire où on me vend quelque chose de très très
qui n'arrivera peut-être jamais.
Qui peut ne pas arriver, qui ne dépend plus du tout de mes décisions à moi à 100% et donc et du marché. Et aussi, on rentre dans un cycle de 5 à 10 ans. Et donc, ce n'était pas forcément nous ce qu'on voulait.
Des moments où le ton monte ?
Oui, le ton est pas mal monté. Alors, pas avec l'italien, mais avec Jordi. Parce qu'on est tous les deux... assez négociateurs et donc il y a aucun point qu'on lâche mais vraiment et donc du coup oui le ton est déjà est pas mal monté dans la négo mais à l'origine en fait sur le premier deal avec le français on avait pris un banquier d'affaires qui je trouve pour ce type d'histoire en tous les cas j'avais du mal à lâcher pour voir la limite. Parce qu'à un moment donné, bon, on est quand même en train de parler de choses qui sont des étapes hyper importantes dans nos vies. Et donc, je mesurais quand même quelle était la limite rouge dans laquelle je voulais pas aussi rentrer dans un conflit, parce que l'objectif, c'est quand même de travailler si le deal se fait avec cette personne-là pendant plusieurs années. Mmh. Donc,
c'est pas parce que tu négocies que t'es fâché personnellement.
Non, exactement. Hein, ouais. Voilà. Mais voilà.
Oui, il faut trouver le ton et la.
Voilà. faut trouver le ton. Et donc, non, on a quand même des heures et des heures de négociation. Hein,
sur quel genre de clause?
Le premier, donc, c'est le prix. Le deuxième, ça a été la durée du sur laquelle on était objectivé au niveau de la performance de Studabart.
Et enfin, le temps que vous alliez rester.
Que tu voulais toi la plus courte possible et eux la plus longue possible. Ou...
Ouais, alors pas forcément, mais en fait, oui, il y avait aussi exactement, enfin c'était un mix entre les deux, c'est-à-dire que nous il fallait pas non plus qu'on présente quelque chose de trop court parce qu'on s'inscrivait dans une histoire commune, donc si on dit bah on va être objectivé que sur 6 mois, ça donne pas non plus un signal de collaboration pour la suite, donc ça aurait pu aussi faire capoter le deal, mais il fallait pas non plus que ce soit trop long parce que tout ce qui vient avec cet objectif de performance, et finalement c'était là-dessus le fond de la négociation, qui était de dire bah en fait oui vous rentrez actionnaire majoritaire, mais tant que je suis en fait en objectivé sur la performance de Studabart,
les décisions sont miennes.
Exactement. Et donc
et
en fait vous ne gagnez
etc.
Exactement, vous ne gagnez aucun pouvoir par rapport à Isaïe qu'ils ont aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que les décisions de recrutement, les décisions de virer des gens, les décisions d'investissement, toutes les décisions liées au contrat etc., ne j'ai la majorité malgré que je sois pas actionnaire majoritaire.
Ouais.
Et donc, tout le sujet.
Et les indicateurs, chiffre d'affaires, EBITDA, etc. Ouais. Ça aussi, c'était des sujets de négo.
Exactement, parce que du coup, vu qu'on a une session en plusieurs tranches, l'idée c'était de dire, ok, en fait, qu'est-ce qui se passe pour les actions qu'on n'a pas cédées maintenant? Et donc, tout l'enjeu était de dire, on a des obligations de vente et eux ont des obligations d'achat, donc ce qu'on appelle call and put. Mmh. Et il faut négocier les conditions et une formule simple. Parce oui. qu'il y a nombre... Donc, nous, on a une formule extrêmement simple. C'est une formule sur le chiffre d'affaires. Donc, mais finalement, pas si simple que ça. Parce que qu'est-ce qui rentre dans le chiffre d'affaires? Qu'est-ce qui ne rentre pas, etc. Donc, on a toutes les définitions sur...
Qui fait la compta? Est-ce que c'est toujours vous? Est-ce que c'est eux? Les retraitements, etc.
Voilà. Donc, c'est nous. On a juste un audit, en fait, qui va se faire à chaque tranche, comme ce qu'on a fait sur le premier. Donc là-dessus, finalement, on est plutôt bien, mais la grosse négociation, elle est sur, en fait, si je prévois de faire 6 millions et que j'en fais 5,7, qu'est-ce qui se passe? Et donc, on a encadré un petit peu tout ça.
Et si au contraire, j'en fais 8?
Exactement. Et donc, comment on est incentivé aussi à aller surperformer sur les multiples? Et donc, là-dessus, ils ont finalement lâché beaucoup.
Parce qu'à la fin, il y avait un intérêt quand même.
Et à la fin, il y avait un intérêt quand même. Et on est dans une histoire où ils sont contents de payer beaucoup plus que ce qu'ils avaient prévu, versus payer moins que ce qu'ils avaient prévu. Parce que parfois, il peut y avoir aussi des histoires qu'on nous a racontées où à la fin, leur earn-out, on veut le diminuer au maximum. Alors que eux, l'objectif, c'est quand même que la boîte, elle soit le plus en croissance possible. Et donc, je préfère payer une boîte en bonne santé plus qu'une boîte qui est en train de décliner moins. Donc là-dessus, on est assez alignés. Mais un des points fondamentaux aussi avec Amaury sur lesquels on s'était mis d'accord, c'est on doit être l'équivalent de Paris Passu avec nos actionnaires. Isaïe,
l'équivalent de
Paris Passu. C'est-à-dire, en gros, nos conditions en tant que fondateurs seront exactement les mêmes pour les titulaires des BSPCE, mais aussi pour le fonds. Donc, on ne signera pas un deal si on n'a pas les mêmes conditions de liquidité que le fonds. Parce que c'est ce qu'on avait le droit comme pacte, on avait quand même deux catégories d'actions et nous on a dit non, si nous on ne vend pas 100% de nos actions tout de suite, le fonds ne les vend pas non plus, on a les mêmes conditions de liquidité que le fonds à ce moment-là.
Et ça, le fonds était à l'aise avec ça?
Et le fonds au début moyen. Après, on avait quand même une super offre sur la table. On restait quand même on est aussi avec Isaïe dans un fonds extrêmement friendly de l'entrepreneur. Et donc, à la fin, ils ont dit, vos conditions seront les nôtres. En gros, on va pas bloquer le deal pour ça. Et au final, ils profitent de l'accélération et de l'earn-out. Donc, on leur donnait la possibilité de profiter de l'earn-out, mais on s'achetait aussi le fait qu'en cas de problème, On a un peu
tout
l'assurance.
Tout ne reposait pas sur vous.
Exactement. Et que du coup, on a quand même des entrepreneurs de renom à notre, à notre capital. On s'est dit, en fait, on va se retrouver tous les deux avec Amaury derrière à gérer la relation avec l'actionnaire majoritaire. On préfère qu'on soit beaucoup. Et que si on a un souci derrière sur les paiements, on a quand même des gens qui ont un gros réseau, beaucoup plus que le nôtre, pour nous aider à nous battre. Parce qu'en fait, c'est aussi ça le sujet. Et que, en fait, si eux ont pris leur cash et qu'ils n'ont plus aucun intérêt, évidemment, je ne pense pas qu'ils ne nous auraient pas aidés, mais on est quand même plus confort au fait qu'on soit aligné sur les intérêts.
Peut-être moins concernés, quoi.
Voilà, exactement.
Dernier point que tu veux partager sur toute cette phase négo ?
Non, je pense qu'on a fait un bon tour.
C'est pas mal, hein.
C'était riche.
Et ben donc, signing, closing, le lendemain. Usher.
C'est la soirée ou le lendemain, ça?
Bon, c'est fait, quoi.
Ouais, exactement. Je pense que il y a...
Il a un peu plus de moyens, lui, pour son clip.
Ouais. C'est clair, il est bien équipé, ouais.
Donc t'es parti au moins pour un an ou deux ans ou trois ans, en tout cas pour une certaine durée, avec des objectifs.
Ouais, et en fait pourquoi cette musique, c'est que on rejoint aussi un projet commun qui dépasse Amaury et Alexandre. On a des salariés exceptionnels sur lesquels on peut offrir un projet européen. Avec du budget, avec
des perspectives,
avec des perspectives aussi, avec des ressources managériales de structure qu'on n'a pas dans une boîte de 50, que eux ont dans une boîte de 250. On rejoint une équipe jeune, dynamique, qui
qu'est-ce qui change fondamentalement?
Bah, en fait, ce qui change pour les salariés, c'est rien, mais on offre de la perspective. Et okay. Ça change beaucoup de choses, parce qu'en réalité, quand
c'est pas des nouveaux bureaux, c'est pas...
Non. Mais on offre la possibilité de collaborer avec des gens de notre industrie sur une expansion, et on signe aussi sur la base d'une expansion de notre modèle avec les écoles en Europe. Donc on a un gros projet de déployer StudAppart dans les pays où eux sont présents, avec notre modèle qu'on a développé en France d'acquisition de demandes via les écoles et universités. Donc il y a tout un projet autour de ce rapprochement qui fait sens. Et qui n'est pas juste une session sèche, et donc ça apporte ce côté excitant de en fait on voit pas de points négatifs au tableau. Alexandre et Amaury restent les patrons, on a plus de budget parce qu'on est objectivé uniquement sur les revenus, et donc du coup on drive l'entreprise par les revenus et pas en mode il faut à la fois faire des revenus et à la fois continuer à rester très rentable, parce que on est dans cette logique de piste d'atterrissage la plus large possible. Donc je vends les revenus ou je vends la rentabilité. Voilà, donc là on a aussi un plan très clair de en fait il faut aller faire de la croissance,
plus et de moyens, plus de tout,
exactement. Donc
là t'es en plein dedans.
Ouais.
Avec les pouvoirs que vous avez pu conserver. Donc finalement, alors dans l'intérêt de cette partie-là, parce que souvent on parle avec des entrepreneurs quand ils sont encore dedans, quand on parle de cette phase-là, ils ont plus tout à fait les manettes avec tout ce qui peut se passer dans la tête.
Ouais.
Malgré tout, est-ce que quelque chose a changé dans la tête ?
Dans ma tête à moi,
ouais.
Ce qui a changé, c'est beaucoup plus relaxé. Hein. Je pense que aujourd'hui,
c'est le fait d'avoir sécurisé, d'avoir éludé le risque de tout perdre, qui existe tout le temps en fait. Hein, quand tu...
Exactement, c'est ça. C'est que ça, c'est la fonction principale et qui, je pense, rend ma vie au bureau beaucoup plus agréable, et avec les salariés qui sont à mon contact beaucoup plus agréable aussi, qui est quand même un esprit de mon intérêt personnel n'est plus du tout en conflit avec les décisions de l'entreprise, et je trouve ça hyper confortable. C'est-à-dire que on a un truc qui est écrit et dans lequel on est hyper à l'aise pour communiquer avec les salariés. Tout le monde en profite parce qu'ils ont des BSPCE. Et donc, ça a fortement changé. La liquidité pour nos salariés de leur package d'action, le fait de pouvoir lancer des projets, d'apprendre avec des ressources qui sont pas les mêmes que celles qu'on avait nous juste quand on était student appart. Voilà, on revient de 2 jours à Rotterdam. On est parti à 7. Il y a aussi cette émulsion avec l'équipe locale, aussi parce qu'on fait des très bons chiffres et donc du coup on n'a pas de problème. Là en ce moment c'est encore la honeymoon et pour bon. Ça dure quoi.
Évidemment, quand on cède sa boîte, quand on a moins de 30 ans, mais même, je dirais même à 40 ans et peut-être même à 50. Ouais, c'est aussi pour aller, évidemment, et je pourrais continuer, mais bon, c'est à un moment, ça va devenir chiant. mais c'est évidemment quand même avec une perspective d'aller soit vivre une autre aventure, soit de s'acheter une île, soit en tout cas de, en vrai, rares sont les aventures d'entrepreneurs qui, après un exit, restent jusqu'à la fin de leur jour dans l'aventure. Donc, évidemment, c'est une question qu'on va te poser. Comment tu te projettes sur une future vie d'après? Et pour parler de ce futur qui n'est pas encore arrivé, tu as choisi une super chanson. Je me demande, c'est pas la deuxième fois qu'on la met dans Cash Out si Adrien Chaltier l'avait pas choisi. J'ai un petit doute. En tout cas, c'est du Orelsan San et c'est La Quête. Et mon associé Solène me fait signe que oui.
Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre pour aller me planquer dans sa classe. Elle me dit t'es pas censé être là, j'ai dit près de toi c'est là ma place. J'aime que les livres, je préfère être seul, donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. J'ai 7 ans, la vie est facile, quand je sais pas je demande à ma mère. Un jour elle m'a dit je sais pas tout, j'ai perdu foi en l'univers. À 5 ans je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais.
Ils sont forts les rappeurs parce que tu peux pas poser par-dessus. Enfin, c'est pas.
Exactement.
C'est compliqué de parler en même temps. Non.
Surtout lui. C'est compliqué à le débit.
Dans sa salle de bain, si, mais pas dans l'émission.
Ouais, tu peux même pas continuer de parler par-dessus. Ouais. Enfin, sinon, voilà. T'entends plus les paroles.
Exactement.
Or, c'est quand même, au-delà des instruments qui sont très bonnes, c'est.
Moi, je l'ai choisi pour. Je pense que ce qui est important, c'est pas justement l'arrivée, c'est vraiment la quête.
N'avait rien. J'ai 12 ans, je fous le bordel en cours pour essayer de me faire des potes. Le prof de musique se fout en l'air, il est au paradis des profs. À 11 ans, je voulais juste en avoir 13. À 13 ans, j'étais.
À la fois parce que. Je pense que finalement, on est dans le podcast Cash Out, évidemment, on se sécurise financièrement. Mais c'est pas l'arrivée, c'est pas l'aboutissement non plus d'une vie, c'est l'aboutissement d'un projet, que la quête pour y arriver, finalement, c'était ça qui était extrêmement stimulant, ce qui nous fait nous lever le matin. Aujourd'hui, mon train de vie reste quasiment équivalent à celui que j'avais avant, et donc...
T'allais passer les 400 euros quand même.
Ouais. Oui, alors,
espère,
par rapport au début de l'aventure, effectivement...
Tu t'es fait un bon kiff ou pas sur la première réalisation?
Ouais, bah on a acheté un super appart à Bordeaux, ouais.
OK.
Voilà, donc c'était un
bon, c'est pas un kiff enfin.
Oh bah c'est quand même
Oui non mais c'est non mais c'est top, mais non, je veux
mais
dire
si t'avais pas d'appart,
peu,
ça fait plaisir quoi.
Oui, quand peut-être original ou
oui, non mais au final ce qui est marrant c'est
il y a pas de fenêtre, le truc très original.
Ce qui est marrant c'est que on en parlait encore hier avec mon associé Maurice, c'est qu'on avait beaucoup d'imaginaire de gosse en disant bah en fait dès que je vais avoir beaucoup d'argent je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Et aussi il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui ne sont pas du tout valorisées comme quand on était gosse, c'est-à-dire d'avoir une grosse bagnole, d'aller faire et donc il y a aussi beaucoup de choses où en fait c'est pas aussi excitant que ce qu'on avait l'impression quand on n'avait pas les moyens de le faire.
Versus à 30,
j'ai acheté une trottinette électrique.
Voilà, c'est ça, c'est qu'au final on se rend compte que voilà, on est aussi dans une vie de plus en plus de simplicité et que en réalité le train de vie n'évolue pas tant que ça. On avait aussi la chance d'être déjà très bien rémunéré et d'avoir déjà un train de vie. De pas trop se poser la question par rapport au fait qu'on n'avait pas bon, on n'a pas d'enfant, on n'a pas beaucoup d'obligations, on n'a pas vraiment de charges. Donc voilà, ça a
non,
pas
mais
changé.
Là, t'as sécurisé ton patrimoine.
Voilà, c'est
tu
ça.
Peux dormir serein. Ouais. Et du coup, C'est toujours une question, tu vois, quand t'as une grosse rentrée de cash, et c'est à quoi ça va servir. Est-ce que tu t'es dit, je vais aussi réinvestir dans d'autres startups. C'est des réflexes. Enfin, t'es entrepreneur, ouais. Et puis t'as été accompagné par des entrepreneurs, ouais, qui eux-mêmes ont investi chez toi. Donc j'imagine c'est des sujets qui.
Ouais, clairement. Je pense qu'il y a aussi ce côté où quand t'es en board avec tes actionnaires, tu te dis un jour, je serai peut-être là à leur place, etc. Donc évidemment que c'est quelque chose qui trotte dans ma tête. Néanmoins, aujourd'hui, mes intérêts restent quand même très alignés avec.
Donc tu peux pas trop te défocus pour
avec
le moment.
Ouais, ouais. Mon rôle principal, c'est quand même d'être hyper intégré dans le projet Studapart. Et à côté, on fait de l'immobilier avec mon associé. Je pense que c'est quelque chose qu'on veut continuer. Et
oui, j'imagine que c'est des sujets qui vous intéressaient.
Parce que là, t'es loqué officiellement encore combien de temps?
On n'a pas de date de fin qui est définie. Voilà, on a des objectifs encore à tenir pour 18 mois.
Okay. Donc, on va dire que c'est... Le lock officiel, il est là, et après l'aventure peut continuer encore.
Exactement. Nous, on a un projet qui va bien plus loin dans le groupe. Donc voilà, je pense que Studapart, dans 2-3 ans, etc., il y a encore beaucoup de choses à faire. Qu'on va y faire, nous, personnellement, à l'intérieur, c'est pas encore hyper clair. Et donc, c'est pour ça que nos projets perso, c'est pas un sujet hyper important à ce moment-là.
Ça deviendra quand ouais. Voilà. Et si.
N'empêche que j'imagine que parfois, ça veut pas dire que tu es déconcentré de tout ce que tu as à faire au sein du groupe, mais j'imagine que parfois, le week-end ou en trasant, t'imagines la suite. Ça veut dire, quand tu te projettes, c'est remonter une boîte, c'est aller élever des chèvres, c'est habiter au bord de la plage et plus rien faire de ta vie, c'est remonter quelque chose avec ton associé ou pas.
C'est surtout le fait de, enfin, aujourd'hui c'est pas les idées qui manquent pour la suite. Je pense qu'un gros enjeu pour moi et aussi pour mon associé, c'est voilà, redéfinir les fondamentaux. Un fondamental personnel, c'est de continuer à apprendre. C'est ce qui m'a le plus excité, ce qui m'a fait le plus grandir pendant cette aventure.
Et oui, donc, ça, il n'y a pas besoin d'un secteur en particulier pour continuer de le faire.
Voilà, mais quand même, apprendre, ça se fait aussi dans l'adversité. Donc, il y a parfois aussi ce côté voilà, de ne pas vouloir rentrer trop dans le confort, même si c'est quelque chose qu'on a toujours voulu. on y est maintenant. Et donc, voilà. Donc, si on relance quelque chose, c'est dans quel contexte? Avec quels moyens, quel niveau d'implication personnelle ou pas. Mais la ligne de fond, c'est impact et croissance personnelle en termes d'apprentissage.
Ok. Top.
Et ensemble à tous les coups.
Et
c'est
souvent
une question qui se pose.
Ce qui est sûr, c'est qu'on a un énorme binôme. Il y a quand même beaucoup de boîtes qui, je pense, rêveraient d'avoir la relation qu'on a avec Amaury.
C'est normal, vous avez passé tous les moments où vous auriez dû vous faire des copains ensemble.
C'est ça, exactement.
Donc il n'en reste qu'un, et c'est l'un et l'autre.
Voilà, exactement. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'on a une relation... Là, aujourd'hui, on a une relation de plus en plus d'amitié, mais pendant l'aventure, et
c'est souvent le cas. Hein.
On se voyait pas le week-end, on avait extrêmement bien séparé perso du pro, et je pense que c'est ce qui nous a aussi fait tenir cette période où t'as pas envie le soir de reparler.
Oui, de reparler du problème de la boîte, le truc, donc c'est bien de voir d'autres personnes.
Voilà, en tous les cas, ça a été notre équilibre à nous qu'on a réussi à trouver et qui était extrêmement bien. Et d'avoir un alignement sur les envies, sur la confiance. Rien que d'avoir quelqu'un en qui t'as confiance pour monter des boîtes, c'est cool, quoi.
Et que t'as connu dans les hauts, dans les bas.
Exactement.
Et ça aide à ôter pas mal de doutes.
Et exactement. Ouais. On se connaît par cœur dans le travail. On a aussi réussi au fur et à mesure du temps à trouver des automatismes et notre place. Ce qui coche beaucoup de cases et ce qui nous a donné aussi cette force pour arriver jusque là, au-delà de nos conjointes respectives et de notre famille, c'est aussi cette relation en binôme qui a extrêmement bien marché.
Ça crée des liens. On finit avec une petite fête.
Avec grand plaisir. Ouais. Alors, comment elle a été célébrée, du coup, cette session ?
Attention, tu réponds en même temps.
Bah, elle a été célébrée plusieurs fois, mais le premier soir du coup avec les salariés clés, on est sorti. C'était un lundi soir, c'était le 31 janvier, donc tout était fermé. mais on a essayé quand même de sortir sur les grands boulevards. On trouve toujours de quoi pouvoir
un bon
sortir.
Café Ose, ça
voilà,
marche pas de pain.
Exactement, un petit café Ose.
Concentrer sur le volume sonore, ouais. Avec ton associé, avec les collabs.
Avec... Ouais, avec collab associé et du coup l'acquéreur. Donc on a fait le closing et ensuite on est sorti. Et ensuite on a organisé une grosse teuf au mois d'avril où là pour le coup on a invité nos anciens salariés, tous les salariés de Studapart, les partenaires bancaires, assurantiels, etc.
Les premiers invests.
Tous nos investisseurs, notre famille qui a été un pilier hyper importante, nos conjointes Amaury et moi.
Donc c'était une fête peut-être plus soft la deuxième que la première ou
Ah non, la deuxième a été une énorme fête.
Ah, c'était
toute la nuit, ouais non, franchement c'était top, il y avait des moyens, on avait loué un studio club, un truc à Paris, on a loué un lieu avec un DJ, etc. Et on a fait la fête là. Et on avait aussi invité du coup l'actionnaire majoritaire avec son board à lui. Et donc non, c'était assez intense. Et d'un point de vue perso, j'ai invité mes potes proches. On a fait un petit peu les ch'tis en Grèce, voilà, pendant un week-end.
Cool,
c'est ça.
Trop bien.
Et ben. Un énorme merci pour tout ce partage, Alexandre. Je suis ravi de savoir que tu étais un auditeur avant de vendre. J'espère que ça avait aidé.
Exactement.
Peut-être pas, mais en tout cas,
c'est pour ça que je suis hyper content d'être là aussi.
Et j'espère que tu vas accompagner là tout de suite pas mal de gens qui sont en phase de négo, peut-être plus tard,
ouais.
Et qui viendront nous rejoindre très bientôt au micro. Si vous êtes aussi sympa qu'Alexandre, on vous accueillera avec un immense plaisir.
Bah écoute, merci beaucoup.
Merci à toi. Et puis félicitations à ton associé, à toute la team. Et on finit comme ça, sur du bon son.
On finit comme ça.
Ça fait les 100 pas, tous à la recherche de créatures. En solo ou pas, belle ou pas, guette les filatures. Au début ça trinque, ça serre et frappe des mains. Sous rap tense, bien viscère, ça frappe des poings.
Wesh DR mon gars, sûr, bien ou quoi poto? Tranquille, si, lourd la soirée hein.
Ah franchement lourd, franchement, hey, gros, mais putain mais ça danse sec là-bas là gros.
Ah j'avoue, wesh glis lui mon.
T'arrives sur la piste genre en moonwalk. Mais wesh il est pas un peu trop les moutons. Oh, y'en a qui goûtent au go, y'en a qui goûtent au cou. Putain je sens que ça va partir en soirée coup de coup. Je sens s'approche, ça se tape des bas. Ça